Donc on est au chapitre 9, on va regarder. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Donc on avait laissé Saul au chapitre 8, verset 3. Or Saul ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc il était déjà très actif contre l'église, il persécutait l'église, il les poursuivait. Et ici, on voit qu'il continue et qu'il agrandit son travail de persécution. Il veut étendre ce travail jusqu'à Damas, qui est une ville située à peu près à 200 km de Jérusalem. À l'époque, ils estiment que ça prenait à peu près 6 jours pour faire le voyage. Donc c'est quand même une démonstration du zèle de Paul qui était prêt à aller assez loin pour persécuter les chrétiens. On a vu qu'il était présent et qu'il dirigeait un petit peu les opérations pendant la lapidation d'Étienne. Et ici, les termes qu'on voit, qu'il respire la menace et le meurtre, on sent vraiment une violence de sa part, quelque chose de un petit peu comme quelqu'un d'enragé, un petit peu qui est vraiment actif. Et on peut regarder quelques passages dans ses épîtres où lui-même parle de sa persécution et de son activité contre les chrétiens. Il y a pas mal de passages où il en parle. On peut regarder Galates 1. Verset 13, « Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je la ravageais. » On verra dans la fin du livre des Actes que Paul lui-même va relater cette histoire de ce qu'on est en train de regarder maintenant. Et il parle aussi de comment il était engagé contre Jésus et contre les disciples de Jésus. On voit qu'il se rend chez le souverain sacrificateur pour avoir des lettres. C'était pour avoir une sorte d'autorisation, une recommandation de la part du souverain sacrificateur qui était Caïphe, qui était, on en a déjà parlé depuis le début du livre des Actes. C'était aussi le souverain sacrificateur qui était en place à l'époque de Jésus, quand Jésus a été jugé et crucifié. Son nom apparaît plusieurs fois dans les évangiles. Et c'est un des premiers personnages pour lesquels l'archéologie a retrouvé des traces et des mentions concrètes en cherchant dans les lieux saints. Donc ça permet de donner aussi une vérification historique à ces récits et au fait que ces personnages ne sont pas des personnages inventés, mais qu'il y avait bien une vérité historique. Et donc Paul demande des lettres au souverain sacrificateur pour chercher des hommes et des femmes qui suivent cette voie et qui les amènent liés à Jérusalem. Cette description de parler des croyants comme des personnes qui suivent une voie est utilisée 5 fois dans le livre des Actes. Dans d'autres traductions, ils en parlent comme des gens qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. Et ça permet de donner un petit peu une idée de, pas juste de croyances ou d'idées qu'on accepte, mais une manière de vivre, une manière d'être, en plus des croyances en Seigneur, au Seigneur Jésus. Et on va voir plus loin dans le livre que on parle pour la première fois des croyants comme des saints. Pas comme étant des personnes super spirituelles, mais avec une idée de personnes séparées du monde, différentes du monde de par leur conduite, de par leur manière d'être. Mais ça s'accorde bien avec cette idée de personnes qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. Verset 3, on voit donc qu'il est en chemin, qu'il s'approche de Damas. Et que tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Si on se tourne dans Acte 26, on peut relire de sa bouche même cet épisode. Acte 26, verset 9. Pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints, après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. Et souvent, dans toutes les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. À cet effet, je me rendis à Damas avec les pouvoirs et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin briller autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus brillante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Et donc on voit que cette lumière va l'éblouir en plein milieu de journée, donc a priori à l'heure où le soleil était le plus fort. Et donc on a vraiment une lumière plus brillante que le soleil. Qui va le frapper et l'aveugler. Il tombe à terre, sans doute un petit peu par instinct de survie, un peu parce qu'il est terrifié, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe, parce que ça le... Il veut essayer de ne pas avoir le soleil dans les yeux, peut-être. Enfin, la lumière, cette lumière extraordinaire dans les yeux. Et il entend une voix qui lui parle directement. À l'époque, les rabbins et les dirigeants spirituels juifs pensaient que Dieu ne parlait plus directement aux hommes, comme à l'époque des prophètes. Et donc on peut supposer que Paul pensait ça aussi. Donc ça a dû le marquer encore plus fortement d'entendre, après cette lumière qui déjà le frappe si fortement, l'aveugle, mais d'entendre cette voix qui lui parle directement. Il entend la voix qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? On voit son nom qui est répété, un petit peu à l'image de certains passages dans les évangiles où Jésus, souvent ému ou avec une profonde émotion, parler à certaines personnes en les reprenant. Et il lui pose une question très directe: pourquoi me persécutes-tu? Et c'est une question qui révèle directement à Paul la vraie nature de son péché. C'est le genre de question que Jésus sait bien nous poser, nous donner. Un petit peu, ça me fait penser à l'épisode avec David, quand le prophète Nathan l'avait repris sur son péché. C'est le genre de question qui met vraiment en lumière toute notre erreur et notre incompréhension, notre idiotie, notre rébellion contre Dieu. Et on voit que Jésus considère que Paul, que les gens, quand ils persécutent les croyants, quand ils persécutent l'Église, c'est pas vraiment les croyants ou l'Église qui sont persécutés, mais bien Jésus. Il y a comme on avait déjà dit, il y a cette équivalence entre Jésus et son Église, que c'est son corps, et que les attaques de Paul contre l'Église sont en fait des attaques contre Jésus. Ça me fait penser aussi au prophète Samuel. Quand le peuple l'avait rejeté et que Dieu lui avait dit: c'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi. Il y a cette idée toujours de quand on rejette les hommes qui suivent la volonté de Dieu ou qui annoncent la vérité de Dieu, c'est pas vraiment l'homme ou la personne qu'il rejette, mais c'est Dieu et Jésus que les personnes rejettent. Et ici, malheureusement, on voit quelque chose qui se reproduit souvent, qui s'est reproduit souvent dans l'histoire humaine et qui se reproduit encore souvent. C'est l'homme, c'est nous qui croyons servir Dieu, qui croyons faire la volonté de Dieu, et qui nous trompons gravement. C'est intéressant parce que des fois, quand on a du mal avec la souveraineté de Dieu, quand on a du mal avec l'idée que Dieu est le seul que Jésus est le seul chemin à Dieu, les gens vont dire: mais il y a tellement de personnes avec une bonne volonté qui sont zélées pour qui essaient de faire la volonté de Dieu. Et on voit ici que le zèle et cette envie de faire la volonté de Dieu n'équivaut pas forcément à la volonté de Dieu et à vraiment obéir et suivre Dieu. Et c'est une question que je trouve finalement marrante. Enfin, pas marrante, mais c'est un peu comme s'il parlait à un enfant qui fait des bêtises. Comme si un enfant prenait les affaires de ses parents et se mettait à les casser. Et le parent vient et lui dit, mais pourquoi tu casses ça? Et il y a un petit peu un côté, ah, il n'a rien à répondre, il n'a pas de justification. La seule chose qu'il peut dire, c'est j'ai tort, quoi. Je ne devrais pas faire ça. Mais il y a un peu ce côté, il n'y a pas vraiment de réponse attendue. C'est juste, rien que le fait de poser la question expose le tort et expose la faute. Et il y a un peu de veine, c'est soit ce que tu fais, enfin, ce qu'il fait est très grave, et puis il y a aussi une idée de ce que tu fais, ça sert à rien. Enfin, lutter contre Dieu, c'est pas quelque chose qui va servir, qui va amener quelque chose de bien. On voit que c'est en fait Jésus qui parle à Paul. Et quand il lui dit « Je suis Jésus », ça suffit pour que Paul comprenne tout. Il savait très bien qui était Jésus. Certains commentateurs avancent l'idée que Paul était peut-être même présent dans le Sanhédrin au moment où Jésus a été jugé. Il était sans doute présent pendant le discours d'Étienne. Il avait peut-être été présent dans la ville à certains moments quand il y avait Jésus, quand il y avait Pierre. On ne sait pas exactement, mais il n'a pas vraiment besoin de plus d'explications. Le fait que Jésus s'identifie, ça va déjà lui faire comprendre tout ce qu'il a besoin de comprendre. Et ici, il pose deux questions cruciales. Qui es-tu, Seigneur, et que veux-tu que je fasse? Quelles sont les questions qu'on a envie de poser à Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que, si vous arriviez devant Dieu, qu'est-ce que vous auriez comme question à lui poser?
Moi aussi je pensais à ça, mais attends, à quel stade de notre vie?
Je sais pas, enfin.
Moi, ce serait qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Ouais,
ouais.
Moi aussi.
Ah oui, non. C'est juste intéressant, enfin, de savoir. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est verset 5. Alors ici il y a une partie qui est entrecrochée. Et d'après les manuscrits, ça aurait été rajouté après coup. Mais ce qu'on a vu dans le chapitre 26, c'est que Paul lui-même, en relatant cet événement, dans le chapitre 22 et dans le chapitre 26, pose ces deux questions-là. Donc, a priori, ce n'est pas quelque chose qui aurait été rajouté en trop. Ce n'est pas quelque chose d'inventé.
Oui, en anglais, ils ne sont pas mis ça.
Ils ne l'ont pas mis? D'accord.
Dans les trois passages.
Dans les trois? Oh. verset, chapitre 22, verset 10, ça y est pas? Et 26, alors je ne sais pas, ça dépend peut-être des traductions.
Oui. Parce qu'il... oui, 26, non, mais 22, oui.
22,
ouais.
Oui, 26, il ne l'oppose pas, mais 22, oui.
Ouais. Merci.
Mmh. Regardons ces deux questions.
Tu peux juste te dire un truc?
Oui.
Parce que tu as dit... qu'il le connaît très bien en fait. Et moi, c'est bizarre, j'ai commencé vraiment justement à rendre compte de Saul et Jésus, j'ai fait, il ne le connaît vraiment pas. Parce que c'est son métier de persécuter, donc si, quand Dieu me dit pourquoi me persécutes-tu, il fait pas de tilt, c'est qu'il fait même pas le lien. Tu comprends? Pour moi, il le connaissait vraiment pas. Enfin, je sais pas.
Mais il le connaissait pas de manière personnelle, mais il savait qui était Jésus.
Oui, mais donc pourquoi il fait pas le lien même comme ça, en le connaissant comme ça? Pourquoi me persécutes-tu? Il persécute pas non plus 10 000. Enfin, il persécute que les chrétiens, moi, qui persécute aussi plein d'autres peuples pour d'autres raisons, je sais pas, mais il sait qu'il persécute Dieu et Jésus.
Oui, mais dans son esprit, il persécutait les croyants, peut-être.
Ouais.
Et il n'y avait pas le.
Mais c'est parce qu'il pensait qu'ils étaient dans les vins, les croyants.
Mais
oui.
Oui, d'accord.
Il pensait bien faire, il pensait suivre Dieu. Donc,
mais je pense que Jésus...
donc il s'attend peut-être pas à voir Jésus qui vient lui parler, quoi.
Oui.
Quand je dis qu'il connaît bien Jésus, c'est qu'il était présent à Jérusalem.
Il connaissait le personnage historique.
Il connaissait le personnage historique. Il savait, quand Jésus dit « Je suis Jésus », il sait que c'est celui qui a été crucifié, que c'est celui qu'annonce Pierre et les apôtres, que c'est celui que suivent les croyants qu'il essaie de persécuter.
C'est le leader de la secte.
Ouais, voilà. C'est cette idée, pas de connaître personnellement, mais... ou d'accepter sa croyance, mais cette idée de... C'est un peu comme si on disait, bon, ben, je connais très bien, si on connaissait
Osama bin Laden
ou Sarkozy, et que... Enfin, quelqu'un de connu, quoi, dans l'époque, dans le jour présent, et donc quand il connaît le personnage historique.
Donc il pense pas persécuter quelqu'un en particulier, alors, du coup?
Ben, les croyants, ceux qui croyaient en Jésus, oui. Parce qu'il pensait qu'ils étaient dans l'erreur.
Il combat une doctrine, donc c'est pas...
Mm-hmm. Il faisait...
Ça peut être comme l'Église persécutée en Chine. Ils ne connaissent pas... Je veux dire, ils connaissent Jésus indirectement parce que c'est le
personnage.
Oui, le personnage.
Mm-hmm. Oui. On ne sait pas, après dans son esprit, il fait peut-être le lien, mais d'une certaine manière, là, il est peut-être aveuglé, il ne le voit même pas, il ne sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu... c'est un peu une question logique. Moi, je m'imagine, si je tombe par terre et que je ne vois plus rien, et que quelqu'un se met à me parler, je vais dire, qui me parle, quoi? Pour moi, c'est assez... ça coule un peu de source, quoi. Tu vois pas ce qui se passe, tu sais pas, tu t'entends une phrase, tu fais, mais qui? Pour moi, c'est la première.
Sa question était hyper légitime. Mais
ouais.
Dès que t'as dit, il le connaît bien, en fait. Et là, c'est pour ça que j'ai pas compris. Mais on en vient de décider.
Ouais. Tournons-nous dans Philippiens. Philippiens 3. Verset 8, et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui par sa mort, dans sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. C'est intéressant de voir dans son épître qu'il a écrit des années plus tard qu'il dit « Mon but est de le connaître ». C'est un peu comme si, depuis ce moment-là, depuis le moment où il est frappé par la lumière, son but dans la vie, c'est de connaître Jésus. Cette question, qui es-tu Seigneur? Alors là, la manière dont il pose la question, c'est de savoir qui lui parle, mais il y a aussi cette idée d'importance de cette question que nous pouvons poser aussi à Jésus et que nous devons essayer de à laquelle nous devons demander à Dieu de nous répondre. Que nous voulons avoir cette relation avec Jésus, nous voulons savoir qui Jésus est. Et c'est la question à laquelle Jésus souhaite aussi répondre. Il souhaite avoir une communion avec nous, il souhaite avoir une relation avec nous, il souhaite que nous le connaissions. Et puis cette question, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qui est aussi une réponse à une question importante qu'on doit être prêt à poser à Dieu, mais qu'on doit être prêt à poser à Dieu avec soumission et avec une volonté d'obéir quand la réponse vient. On voit dans Acte 26, dans ce qu'on a lu, que Dieu lui annonce tout de suite, je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Ah non, c'est pas là. Ça doit être dans 22. En tout cas, là, c'est pas dans ces passages-là, ça doit être plus loin dans Galates peut-être. Mais en tout cas, Paul va apprendre de la part de Dieu assez rapidement qu'il a un plan pour lui qui est d'amener l'évangile aux non-juifs et qu'il va beaucoup souffrir, que ça va lui coûter énormément. Et on peut se demander, enfin moi je me demande quand je vois ça, je me dis mais Dieu me dit j'ai des gros projets pour toi mais tu vas en baver. Quelle est la réaction de mon cœur, comment je l'accepte, comment je le...
Non, je ne suis pas sûre que le Seigneur dit ça.
Jésus lui-même annonce qu'on va être persécuté. Donc,
oui, mais à Paul, je
ne suis pas sûre. En tout cas, ça
va être pas la menace après. Il est persécuté, ça lui arrive après.
Oui, mais il ne dit pas à Paul, il dit aux autres. Mais je ne suis pas sûre que les autres ne le répondent pas.
C'est-à-dire
parce qu'il a eu une vision quand même, il a entendu le Seigneur, il est même tout de suite, il dit c'est ma fille, il se fortifie, il évangélise tout de suite et tout ça. Alors pourquoi aller dire que le Seigneur il a dit que tu serais persécuté?
Il le dit pas tout de suite là après, mais il va le dire souvent. On va le voir tout au long de l'histoire, même il en parle, la manière dont il en parle, par exemple, dans certains de ses épîtres, dans 2 Corinthiens, il annonce tout ce qu'il a souffert et enduré. Quand, avant de retourner à Jérusalem et d'être enfermé, il annonce la vision qu'il y a quelqu'un qui prophétise et qui dit qu'il va être lié, qu'il va devoir souffrir et qu'il va être persécuté pour le Seigneur et c'était pas quelque chose de mauvais qu'il annonce. Les gens lui disent même, essaient de le décourager d'aller à Jérusalem à cause de cette vision. En tout cas, quand on pose cette question, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à recevoir la réponse et à obéir?
Pas dire non, Seigneur.
Quoi ?
Il ne peut jamais répondre non, Seigneur, si on ne peut pas Seigneur. D'ailleurs, dans la réponse « Qui es-tu, Seigneur ?», il a déjà senti que c'était cette lumière, c'était Dieu, quelque chose.
Alors là, on a dans le verset 5 et dans ce qui est répété aussi dans le chapitre 26 que Jésus lui dit, il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. C'est des trucs qui me semblent un petit peu bizarres en français. Alors j'ai cherché les définitions des mots. J'ai cherché aussi à trouver des images. Parce que j'en ai pas vraiment trouvé de très bonnes. A priori, un aiguillon c'est un langage de fermier. C'était un bâton, un long bâton en bois. Et au bout, il y avait un pic en fer. Un petit bout pointu. Et c'était les gens qui labouraient la terre avec des bœufs ou des bêtes de somme. Ils avaient par exemple les outils qui traînaient derrière la bête, et pour faire que la bête avance ou pour la guider, ils mettaient des coups de pique. Ça lui permettait d'éviter de se prendre des coups de pied et d'être blessé, et ça permettait de guider la bête de somme en fait. Et donc ici, on a presque une mini parabole en une phrase. Rejamber, c'est le fait de se rebeller ou de refuser d'obéir à cette direction de la part du pic. C'est un terme qui est utilisé souvent avec les bêtes de somme en fait, c'est-à-dire qui quand tu leur mets un coup de pied, ils mettent des coups de pied ou ils se redressent un petit peu contre la direction donnée, quoi. Et donc en essence, on a Saul qui est une bête de somme, Jésus qui est le fermier, on a Saul qui est bête et obstiné. Mais qui peut être très utile à son maître s'il accepte la direction. Et on peut penser que il avait sur la conscience déjà des choses par rapport à la persécution, par rapport au discours d'Étienne, au visage d'Étienne, à la prière d'Étienne, qu'il avait vécu en direct dans ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Ça devait le travailler dans sa conscience, et c'était d'une certaine manière Jésus qui par son esprit le piquait peut-être déjà un petit peu. Et quelque part, Jésus lui dit, si tu continues, ça va être dur. Et c'est intéressant parce que malgré le fait que Paul persécute Jésus, Jésus se soucie de Paul. C'est lui qui vient à Paul, c'est lui qui le premier l'a aimé, qui veut lui épargner la douleur et les souffrances qui viendraient du fait que Paul refuse la volonté de Jésus. Et pour nous, on peut se poser la question, est-ce que Jésus nous pique, et est-ce qu'on accepte sa direction quand on pose ces questions, est-ce qu'on a son esprit qui nous, par notre conscience, nous parle dans certaines situations, dans certains comportements, dans certaines circonstances de nos vies, est-ce qu'on est prêt à être des bêtes de somme utiles et productives pour Dieu? On voit qu'il est tout tremblant et stupéfait. Dans les adjectifs. C'est le comportement en général qu'on voit dans les Écritures quand quelqu'un est face à Jésus glorifié ou à Dieu. Il y a cette compréhension, cette prise de conscience immédiate de qui nous sommes face à Dieu, de combien. C'est pas quelque chose qui est facile, disons. C'est souvent quelque chose qui marque les gens, qui limite terrifie les gens. Souvent quand on voit Dieu ou Jésus apparaître à quelqu'un, les gens ils sont obligés de leur dire n'aie pas peur. Et on a le sentiment encore là qu'il est vraiment secoué par cette lumière, par cette présence de Jésus. Dans les versets 17 et 37, qu'on n'a pas encore lu, 27, ça nous confirme que c'est bien Jésus qui lui est apparu. Corinthiens 9:1, on voit que Paul va dire « Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?» Et 1 Corinthiens 15:8, « Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. » Et cette idée que Paul a vu Jésus, que Jésus lui a transmis des choses, l'a formé en quelque sorte dans la doctrine, dans ce qu'il comprend de Dieu et des Écritures, ça donne une autorité aux paroles de Paul qu'il aurait peut-être pas eu si il était resté par exemple longtemps avec les apôtres et qu'il avait finalement appris les choses d'eux. Il serait passé un petit peu en élève des apôtres, alors que là, le fait qu'ils reçoivent directement de Jésus l'évangile, ça donne vraiment une autorité à son message par rapport à l'Église. On peut même regarder dans Galates 1, verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Donc ça, c'est quelque chose qui démarque encore Paul. Tout cet épisode, c'est pas quelque chose de commun que Jésus se révèle à quelqu'un, à un pécheur, pour le reprendre. C'est de cette manière-là, avec une lumière, une voix audible. Et il y a vraiment une notion que Paul avait été choisi par Dieu pour un ministère particulier et qu'il avait vraiment un plan spécial pour la vie de Paul.
Mais ça serait bien s'il y en avait plus, des comme ça.
De quoi ?
Ça serait bien s'il y en avait plus, parce que ça a beaucoup plus d'impact, finalement. Ouais.
Bah, c'est Dieu qui décide. Ouais. Verset 6. Lève-toi, entre dans la ville et l'homme te dira ce que tu dois faire. Encore une fois, on voit la direction de Jésus, de Dieu, qui vient par une commande, mais pas la suite. Juste, tu vas dans la ville et tu verras la suite. Et encore cette idée, comme on en avait parlé la dernière fois, que Dieu ne nous donne pas forcément tout le projet, mais il nous donne l'étape suivante. Il nous dit, maintenant tu fais ça, quand tu seras là-bas, je te dirai la suite. C'est difficile, mais c'est important de le noter et de l'accepter aussi. Qu'il ne nous donne pas forcément le projet à long terme, qu'il ne nous expose pas tout le comment ça va se passer, mais il nous force à d'une certaine manière, ça nous force aussi à le rechercher. Si s'il nous donnait tout le projet, on dirait ok, salut, je te verrai dans 2 mois quand j'aurai fini. Alors que quand il nous dit tu fais ça et après tu reviens me voir, ça nous oblige à avoir cette relation continue avec Dieu, avec son esprit pour avoir une direction continue. Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Eux aussi sont stupéfaits. Plus loin, dans les chapitres suivants, il dit qu'ils ne comprennent pas. Et on voit Saul se releva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Donc, il avait sans doute fermé ses yeux quand il y avait la lumière très forte qui lui était apparue. Et là, il les ouvre, mais qu'il ne peut quand même pas voir. On ne sait pas pourquoi Dieu a fait ça. C'est un petit peu comme s'il lui disait « Tu avais fermé tes yeux spirituellement, tu étais aveugle spirituellement, alors maintenant on passe quelques jours physiquement aveugle pour réfléchir un petit peu sur la chose. » On ne sait pas pourquoi il a fait ça, pourquoi il a laissé comme ça. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Il était vraiment coupé du monde. On peut se dire qu'il a dû se passer pas mal de choses dans l'esprit de Paul pendant ces 3 jours.
C'est un jeûne forcé, je
sais pas. On ne sait pas exactement si c'est par...
Parce que non, mais être aveugle, ça n'empêche pas de manger.
Oui, mais après, on ne sait pas si c'est lui. On ne sait pas, peut-être qu'il était tellement...
Perturbé,
secoué, qu'il ne pouvait pas...
Mais est-ce qu'il n'était pas en prière pour aller disparaître ?
Pour réfléchir.
Oui, mais après, il était sans doute... Mais je veux dire, ça, c'est quand même... qu'on soit en prière ou pas, on est un petit peu... Là, il arrive au bout de lui-même. A priori, l'homme, au bout de 3 jours, sans boire, il commence à être à la limite. On s'intoxique soi-même, on n'a pas les toxines qui sont évacuées par les liquides et on commence à... En général, au bout de 3 jours, c'est la limite sans boire. Sans manger, on peut durer plus longtemps, mais... Donc, il arrive vraiment au bout de lui-même.
Les 3 jours, tu crois que ça a une signification ?
Ça peut nous faire penser à des choses. Cette idée de Jésus et de...
Oui, 3 jours. Oui.
3 jours, un petit peu dans le ventre de la terre, quoi. Il y a un petit peu cette idée de il voit rien, il est dans le noir, il mange, il voit pas.
Oui.
Jonas aussi, oui. Donc on ne sait pas pourquoi 3 jours, mais c'est vrai que ça nous fait penser à des choses.
Le discours d'Étienne.
il a dû peser les actions de sa vie et ce qu'il était en train de mener, ce qu'il était en train de faire. Ça a dû le...
C'était peut-être
3 jours de repentance. Oui, on ne sait pas, mais on sait qu'il en sort grandement changé. Qui réfléchissait à ça aussi. Bah aussi ce que lui avait annoncé Étienne, comment Étienne lui avait expliqué, peut-être ça a pris forme dans son esprit. Verset 10. Or il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et dit: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Là, on voit un beau contraste dans la manière dont Dieu parle à Ananias. C'est beaucoup plus doux que cette confrontation un peu violente qu'a subi Paul. On a le sentiment que Dieu l'appelle plus doucement, peut-être pendant son temps de prière. Et il a une réponse excellente. À savoir, Dieu, me voici. Seigneur, me voici. Et finalement, c'est ce contraste est quelque chose de, quand on y réfléchit, qui devrait être normal. C'est-à-dire que quelqu'un qui est croyant, qui considère et qui accepte le Seigneur Jésus comme son Seigneur, comme son Maître, devrait pouvoir être sous la direction de Jésus sans que Jésus ait à, on va dire, le fouetter ou le piquer violemment. Dieu devrait pouvoir nous guider sans employer les grands moyens, j'ai envie de dire. Alors que pour quelqu'un qui est non-croyant, comme Paul l'était, c'est plus normal qu'ils aient plus de mal à accepter la parole de Dieu ou la volonté de Dieu. Et c'est peut-être plus normal qu'ils aient besoin d'un peu une reprise par rapport à leur péché et leur besoin de repentance. Mais évidemment, ici, une question importante, c'est qu'est-ce qu'il en est pour nous ? Comment est-ce qu'on se laisse diriger par l'Esprit? Est-ce que Dieu a besoin de nous secouer, de nous faire mal, de nous piquer pour qu'on écoute, pour qu'on bouge? Ou est-ce qu'il peut nous parler, nous appeler et on lui dit: Seigneur, me voici. Et donc Dieu lui dit d'aller voir Paul. Il donne la même vision aux deux hommes. Il donne une vision à Paul qui effectivement était en train de prier. On peut se dire que c'était peut-être la première fois qu'il priait de manière authentique. que les autres fois, c'était ils disaient des prières comme des rituels sans vraiment comprendre. En tout cas, on sait qu'il n'avait jamais prié avec Jésus comme intermédiaire auprès du Père. Et Ananias, on peut noter que c'était pas quelqu'un de particulier ou d'incroyable a priori. On n'en entend plus parler. C'était un croyant comme un autre. Mais il a une place et une importance incroyable dans le plan de Dieu ici. Et il pose la même question et la bonne question, à savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse. Il est prêt. Il pose pas la question, mais il est prêt à accepter la volonté du Seigneur. Alors on voit qu'il est un petit peu hésitant quand même. Sa question, elle manque presque de respect, parce qu'il dit, bon Dieu, tu sais qui c'est ? Tu sais bien qui c'est, tu vois bien, tu saisis le personnage là, c'est pas juste, c'est quand même quelqu'un qui a autorité pour venir faire ce qu'il veut. Avec avec nous.
Non, mais c'est mignon, il m'explique.
Tout le temps. On voit sa patience et la douceur de Dieu avec sa manière avec Ananias qui lui explique effectivement les choses. Mais on voit quand même la soumission d'Ananias qui obéit. Pour nous aussi, souvent on sait que Dieu est souverain, on sait que Dieu a de bons plans pour nos vies, on sait toutes les promesses de Dieu, et pourtant quand Dieu nous demande certaines choses, on va refuser parce qu'on a peur ou parce qu'on hésite. C'est pour ça aussi qu'il est important dans la parole de Dieu, ça nous permet de nous rappeler les promesses, de nous rappeler parfois et sur certaines choses pourquoi Dieu veut que nous fassions certaines choses. Donc on voit que Paul va avoir un appel pour sa vie avec une grande responsabilité mais aussi un grand prix à payer. Cet homme est pour moi un instrument de choix. Donc Ananias part, il obéit, il arrive là où Paul se trouve. Et c'est l'obéissance d'Ananias n'est pas seulement visible dans le fait qu'il soit allé voir Paul, mais aussi dans la manière dont il le traite. Il l'appelle tout de suite frère. Il le touche. C'est quelque chose qui vis-à-vis de Paul, qui était isolé, qui était coupé, qui voyait rien, qui avait pas mangé, qui avait bu, c'est un petit peu, ça devait le réconforter, c'est un peu le prendre, lui montrer de l'amour. Et Dieu, après les 3 jours où il a sans doute laissé Saul être brisé, être repris, se repentir. On voit qu'il le laisse pas dans cet état, mais il le remplit de son esprit. Les écailles, c'est, il y a quelque chose comme des écailles qui tombent de ses yeux, et il recouvre la vue. Il se lève et il est baptisé. Et après, il prend de la nourriture et il retrouve aussi ses forces physiques. La plupart des commentateurs que j'ai regardés s'accordent pour dire que c'est à ce moment-là que Paul est converti et sauvé. C'est ce moment où l'Esprit vient en lui. C'est bon encore de voir que Dieu ne nous laisse pas, veut pas simplement nous briser, nous faire nous repentir un petit peu, nous laisser dans le désarroi, mais il veut nous remplir de son esprit, il veut nous donner de la force. Et il y a aussi ce détail et ce souci aussi de la force physique. On sait que Jésus souvent se souciait aussi des gens, de s'ils avaient à manger, de la petite fille qu'il avait ramenée à la vie, tout de suite il avait demandé que les gens lui donnent à manger. Il comprend nos besoins spirituels et matériels. On va faire la pause maintenant.